Si, si. C'est bien, j'imagine que vous avez tous un papier pour prendre des notes. Et j'imagine que vous avez tous la Bible devant vos yeux. Non? C'est une imagination, hein? On n'est pas obligé de le voir directement, on peut l'imaginer, hein? Voilà, en fait, le but de ces prédications ou de ces enseignements n'est pas tant écouter, simplement, mais c'est servir de haut-parleur à ce que Jésus est en train déjà de dire dans nos cœurs. C'est-à-dire, le plus important, ici dans la cité du cœur de Jésus, encore davantage, c'est avoir des résonances de Jésus dans notre cœur. Avec une petite nuance, que ce que le Seigneur nous dit ici, après, quand on revient chez nous, ce n'est pas qu'on a un pic à parélémonial et après il y a la descente vers la plaine, hein? Pétrarque disait déjà ça, il a écrit la montée au Ventoux, et le Ventoux c'est l'élévation spirituelle, non? Et après on descend à la plaine, c'est Avignon, non? Donc il ne disait pas ce qui s'est passé dans la plaine, mais ce n'est pas la même chose que dans l'élévation spirituelle, ok? Voilà. Alors, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas comme désir nous donner des moments forts spirituels pour après descendre dans la médiocrité continue de nos vies problématiques. Il nous invite à oxygéner nos cœurs pour demeurer dans le continu de nos histoires avec le même amour qui peut grandir d'ailleurs. Si, quand nous sommes dans le chemin du Seigneur, nous profitons le plus possible. Dieu n'est pas clignotant. Et une fois, ces blagues fonctionnent parfois plus avec les filles qu'avec les garçons. Et je ne suis pas machiste, donc imaginez, je vais raconter avec un garçon, mais imaginez que c'est une fille, non? Oui, parce que sinon ça va. Alors, c'est un garçon qu'il venait d'avoir le permis de conduire, non? Et il était encore, il avait approuvé, mais il ne savait pas trop, c'est le premier voyage, il y avait son papa à côté, non? Et alors là, il y avait trop les volants, la marche, il était vraiment inquiété, le papa voulait lui aider un peu, non? Et il lui dit, le fils au papa, pouvez-vous regarder si les clignotants fonctionnent? Et le papa, qui savait tant comme le fils, il disait, maintenant oui, maintenant non, maintenant oui, maintenant non. Donc, ce n'est pas machiste. Hein? Non, excusez-moi. Non, mais la blague va ailleurs. Hein? Le Christ n'est pas maintenant oui, maintenant non. Et son amour pour nous n'est pas maintenant oui, maintenant non. Et il ne nous aime pas moins dans les circonstances concrètes de nos histoires. Pas vrai. Mais ce que nous faisons, c'est apprivoiser notre vie. L'Eucharistie, on l'a dans les villages les plus petits de la terre. Mais profiter de l'Eucharistie, pouvoir profiter de l'Eucharistie là où nous sommes, recevoir. Monseigneur Cattaneo, il a dit une phrase très belle. Juste quand il a présenté le Seigneur, il en a rajouté à la liturgie. Les évêques nous disent qu'il ne faut pas rajouter, mais quand ils rajoutent, non, ils nous donnent toutes les permissions. Non, non mais il disait, hein, c'est très beau, hein, il disait, nous mangeons pour devenir celui qui nous mangeons. Et il a repris ça parce que la petite Célie, qu'est-ce qu'elle nous avait dit? j'ai communi pour manger Jésus à mon cœur. On a de quoi, hein? 6 ans, on a de quoi. Hein? Quand elle aura 61 ans, on va la canoniser, non? Non. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? On communie pour manger Jésus dans mon cœur. Autrement dit, mon cœur a faim. Autrement dit, mon cœur a besoin d'être nourri. Ça résonne, hein? Autrement dit, mon cœur n'est pas fait pour être dans une espèce de désir sans trouver jamais. Autrement dit, mon cœur est fait pour une communion de cœurs, parce que personne ne peut rassasier mon cœur si ce n'est un autre cœur qui l'aime vraiment. Saint Paul, il était très surpris. Dans les chemins de Damas, il a fait une expérience qu'aujourd'hui nous pouvons l'appeler eucharistique, même s'il ne savait même pas ce que c'était. Sol, sol. Et du coup, il s'éveille à une dimension qui lui échappait, mais qui était là. Elle est aussi en Avignon, ou à Caron, ou à Cavaillon, ou à différentes villes ou villages, même à Paris, non? Il y est. Mais ma perception est trop faible. Peut-on grandir dans la perception de Jésus? Paul, dans les chemins de Damas, il perçoit d'abord un regard d'amour tellement grand pour lui. Cela est la première étape. Vous vous souvenez qu'hier on parlait des étapes, hein? On est dans la première lettre de Jean. Et j'imagine que vous l'avez déjà lu tous, parce que je vous ai dit hier que ça nous est d'avant, ces 5 pages. Hein? Si vous ne l'avez pas lu et vous avez regardé, si vous aviez des messages dans votre portable, non? C'est que vous n'avez pas encore compris ce que Monseigneur nous disait, parce qu'il parlait de la télévision. Mais le portable, oh là là, le portable. Oh là là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre de Jean? Je vous ai dit hier que Saint Jean, ou le disciple bien-aimé, on ne sait pas trop qui, mais Saint Jean, il poursuit dans sa lettre en 3 étapes, comme 3 degrés d'approfondissement de l'expérience de Jésus. Et ces 3 degrés d'approfondissement nous concernent tous, parce que Saint Jean, il était convaincu que ce qu'il dit dans le 3e degré est possible d'être vécu. L'amour bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. La communion de cœur avec Jésus est capable de remplir mon cœur. La communion de cœur avec Jésus peut faire que ma vie, même dans les Auschwitz les plus difficiles de nos histoires, peut être tellement grande qu'il y ait de bien ou il y ait de mal en moi, tout fait de la même saveur et l'âme transforme en lui-même. On mange pour devenir celui que nous mangeons. Saint Augustin disait, quand on mange une carotte, la carotte devient nous. Hein? Un peu quoi. Hein? Quand nous mangeons Jésus, nous devenons lui. Ça semble une blague, mais ce n'est pas une blague. Hein? Ce n'est pas un jeu de mots. C'est réel. Quand nous mangeons Jésus, mais il faut le manger dans le cœur. Et alors, la première étape de la lettre qu'on a vu hier avait 5 points, 4 ou 5 points, qu'aujourd'hui on va parcourir dans la 2e étape. Alors, Madeleine me disait qu'il faut les rappeler. Donc, première étape, première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 5 à 2, 27, c'est-à-dire tous les chapitres 2. Deuxième étape, qu'on va voir maintenant, première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 10. On va essayer de regarder ça. C'est une lettre, ce n'est pas trop pour des antelos, c'est une lettre pour écouter dans le cœur. Mais à fur et à mesure qu'on la lit, on perçoit que les quatre points que hier on a vus, aujourd'hui Saint-Paul revient au même point, mais avec une tournure encore plus belle pour apprivoiser la merveille de son amour. Et c'est ce qu'on va essayer de glaner maintenant, juste avant le repas. Ouais, mais ça avance. Hein? Et alors, pourquoi j'ai parlé de l'Eucharistie? Parce que c'est vrai que Saint Paul, dans les chemins de Damas, il découvre l'amour infini de Jésus pour lui. On va le voir que c'est le premier point. Comment le Seigneur traite nos péchés? Hier, on l'a déjà vu, premier point. Aujourd'hui, on va le voir encore, et c'est dans le même ordre. Je crois que j'ai publié un bouquin là-dessus, parce que c'est vraiment un approfondissement qui nous permet de grandir dans l'expérience de Jésus. Comment Jésus nous aime et comment il prend nos péchés sur lui pour les transformer, premier point. Deuxième point, comment elle est notre relation à l'autre. Hier, on l'a vu, aujourd'hui, on va le voir encore dans cette deuxième étape. Saint Paul, il a découvert dans les chemins de Damas que ce qu'il vivait, il vivait avec les disciples de Jésus, il vivait avec Jésus. Il ne savait pas. Il ne savait pas que quand il persécutait les chrétiens, c'est Jésus même qui était impliqué. Il ne le savait pas. Nous le savons. Mais on ne le sait pas toujours existentiellement. Et on voit que le deuxième point que Saint Jean veut nous introduire dans cette étape est justement notre rapport aux frères. Et il approfondit ce qu'il a dit hier. On va voir. Dans les chemins de Damas, Saint Paul aussi, il commence à découvrir qui est vraiment Jésus et que en relation avec lui, son âme trouve la paix. Trouver la paix est essentiel. Être dans l'assurance intérieure, dépasser les scrupules, commencer à découvrir qu'on a une communion de cœur qui est assurée, on a besoin de ça. Pas dans la théorie, mais dans le cœur. Et on verra que le troisième point, Saint Jean continue à approfondir ce point de l'assurance du cœur. Quatrième point, il va nous introduire dans la vraie connaissance de Jésus avec une petite nuance, c'est qu'à fur et à mesure qu'on les connaît, on découvre que notre vie est faite pour vivre le même dynamisme qu'il vit. Tout à l'heure, mi-emblarant, mi-vrai, quand on parlait, on arrivait ici à l'abri du pèlerin, il y a une dame qui me dit « Mon père, il faut vous dire mon père ». Non, j'ai dit immédiatement, c'est comme une espèce de réaction qui me vient dans l'esprit. No? Et c'est, il y a un verset de Saint Matthieu où Jésus dit « Il faut appeler par son père sur la terre ». Parce qu'il n'y a qu'un seul Père, celui du ciel, et nous sommes tous des frères. Un jour, ça, je l'ai dit dans la messe, j'ai expliqué toute la messe, non? Et après, de l'homélie, je leur dis, « Vous avez compris? Oui, mon Père. » C'est vrai que Marthe Robin nous disait qu'effectivement, il faut rappeler aux prêtres leur paternité, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que Jésus ne surplombe pas nos vies pour d'abord nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il veut nous introduire pour que nos vies aient la confiance de pouvoir vivre le même dynamisme qu'il vit. Ce n'est pas l'autorité qui écrase d'abord et l'autorité qui se met au pied pour faire grandir plus que nous-mêmes. On va le voir tout à l'heure. Et dans cette deuxième étape, le point fort, Le point central se trouve dans les versets 22 du chapitre 3, dans lesquels saint Paul parle, saint Jean parle d'être agréable à lui. Le cœur même de la deuxième étape, c'est être agréable à lui. Moi, dans l'homélie, comme je savais que j'avais pas trop de temps, j'ai commencé déjà à parler de ça. Être agréable à lui. Faire la joie de notre Dieu. Parce que si je ne découvre pas que j'ai fait la joie de mon Dieu, ne me demandez pas d'aller plus loin. À moi, avec un bâton, ne me fait pas bouger personne. Il y avait un cardinal, qui est encore cardinal, et ami du pape François, le cardinal de Santiago de Chile à l'époque, no? Qui disait, il y a certains prêtres qui utilisent la pastorale de la mendier. Je ne comprenais pas la pastorale de la mendier. Ça doit être une nouvelle technique, no? de pastorale. La pastorale de la mendier. On ne s'occupe pas de la mendier dans toute l'année, et quand il y a les amendes, on prend un bâton et on commence là. À ce que les amendes tombent. No? Évidemment, ce n'est pas à coup de bâton qu'on fait avancer le cœur. Je dis que ce cardinal avait raison. Pourquoi? Parce que le cœur avance quand on découvre la valeur que nous avons pour le cœur de Jésus. Et la valeur que nous avons pour le cœur de Jésus est infiniment plus grande de ce que nous sommes habitués à voir, comme Paul lui est arrivé dans les chemins de Damas. Qu'est-ce que c'est qu'être agréable à lui? Ce matin, dans la louange, on a chanté un chant que je ne connaissais pas trop, ni trop ni rien, je l'ai appris un peu, non? Mais une des strophes disait à peu près, non? Il dansera pour toi. Il reprenait évidemment le prophète Sophonie, le chapitre 3. Il dansera pour toi. Est-ce que vous avez imaginé derrière le tabernacle que Jésus danse de nous voir là, dans l'adoration? Il danse? Ah non, Dieu ne danse pas pour moi, non? Dieu danse pour Saint-Thérèse de l'enfant Jésus, mais pour moi, non? Il faut lui acheter des lunettes. Si le Seigneur danse pour moi, je crois qu'il a une myopie incroyable, non? Non, mais c'est très important ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce que disait ce matin du Shabbat, que je le disais tout rapide dans l'homélie, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Cet ami de Benoît XVI, qui s'appelait Neusner, non? C'est un rabbin nord-américain qui est mort l'année dernière, il a écrit dans un bouquin qui s'appelle le rabbin de Galilée, ah non, si, un rabbin parle avec Jésus, et c'est très intéressant parce qu'il étudie les évangiles, et tout ce que Jésus dit dans les évangiles lui semble bien, tout. Donc il était déjà au point de devenir disciple de Jésus, sauf une chose que lui ne comprenait pas de Jésus. Il dit à la fin du livre, voyez pourquoi je ne deviens pas disciple du rabbin de Galilée, c'est par la façon dont il traite le Shabbat. Vous savez, avec un petit peu d'humour, que Jésus, il s'élevait de bon matin, il regardait la montre ou l'iPhone, non? Et s'il voyait que c'était Shabbat, il se préparait. Il y a Shabbat. Il cherchait s'il y avait des pharisiens ou des prêtres dans les parages, non? S'il y avait des pharisiens dans les parages, et c'était Shabbat pour un miracle. Non? Il pouvait faire les miracles le lundi, le mercredi, le samedi, on ne l'aurait pas crucifié, non toujours, en Shabbat. Non? Chaque fois que c'était Shabbat, il y avait des pharisiens dans les parages comme ça, oh voilà, ça y est. Non? Et ça les énervait les pharisiens. Non? Mais pourquoi? C'est très intéressant, vraiment. Et c'est Benoît XVI qui les met en valeur dans le livre Jésus de Nazareth. Mais c'est le premier livre. C'est très, très... La moitié du livre est tout un dialogue avec ces rabbins nord-américains. Mais pourquoi? Parce que ces rabbins disaient, les Shabbats, c'est les temps dans lesquels Israël perd du temps pour découvrir la valeur de sa vie pour Dieu. Encore les béatitudes, quand ils célèbrent l'entrée du Shabbat en reprenant la tradition juive, ils le font comme ça. Le Shabbat, c'est les fiancés. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est Israël prend le temps pour découvrir qu'il est la fiancée de son Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est affectif, ça c'est un peu trop romantique, non? Mais qu'est-ce que c'est que ça, non? Quelle religion si ridicule, des gens un petit peu qui disent que Jésus est l'époux, imagine, non? Ben imagine, imaginons. Parce qu'en vérité, déjà dans le premier pas, vous avez regardé, bien sûr, les chapitres 2 de Saint Marc, non? Monseigneur, il nous avait dit qu'il parlait de Saint Jean, et tout le matin, il nous a parlé de Saint Marc. Alors, je reprends son école, non? Et alors, dans les chapitres de Saint Marc, Jésus se présente comme l'époux, en majuscule. Mais il y a très peu de chrétiens qui osent une relation affective avec son Dieu. Très peu. Et en France, je crois qu'un petit peu moins de la moyenne. Parce que comme c'est la rationalité, que c'est un grand don la rationalité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être... Non, non, c'est un grand don être rationnel. Parce que la vérité est essentielle pour faire des pas dans le cœur. Sinon, le cœur ne bouge pas, ok, c'est vrai. Mais il ne faut pas rester seulement à comprendre des machins. Parce que Jésus vient vraiment comme l'époux de mon cœur pour me dire, tu es la prunelle de mes yeux. Et si on passe pas, si on perd pas de temps à découvrir que j'ai fait la joie de mon Dieu, Isaïe 62, 5. La joie que le fiancé avec son épouse l'aura ton Dieu avec toi. Oh là là, mais bon, écoute, Dieu. Quand on est un petit peu sincère, non, Dieu, écoute, Dieu, je suis la joie de mon Dieu, va voir, non? Va voir, non? Dieu doit être très, très amer, non, avec moi. Hein? Absolument pas vrai. Et justement, dans ce registre d'être agréable à Dieu, on entre dans la deuxième étape de la première lettre de Jean. Je crois, avec ces mots à elle, ces petites Zélie ce matin nous parlait un peu de ça. Manger Jésus dans mon cœur signifie... pas être avec l'esprit de Marthe. Alors, je vous dis un miracle aussi très bizarre, parce que le papa, l'unique chose qu'il m'avait dit, c'était que s'appelait Zélie et qu'il avait dit cette phrase. Je ne connaissais pas la famille. Hein? Mais quand j'ai commencé à parler de Marthe et Marie, à la sortie, la maman m'a dit, mais comment, est-ce que mon mari vous a dit qu'à part de s'appeler Zélie, les deux noms qui restent pour elle, c'est Zélie, Marthe et Marie? Yo, waouh! Je ne savais rien du tout. Vraiment, je le jure. Hein? S'appelle Zélie Marthe-Marie. Qu'est-ce que c'est que Marthe-Marie? Qu'avec l'esprit de Marthe, autrement dit, en cherchant d'être payé par tous les publics que nous avons dans la tête, parce que nous avons tous des publics dans la tête, même quand on travaille tout seul dans la maison, on pense à... C'est lui qui va nous dire quand même la photo, non? On attend la photo, quoi, non? Mais oui! Ah oui, je suis content que vous dites que oui, parce que moi, m'arrive tellement de fois ça, non? Mais c'est très important, ça, parce que Jésus ne dit pas vendredi, mercredi de cendre. Voilà, je suis encore dans l'introduction, c'est malheureux ça, non? Et dans l'hôtel, il nous attendait déjà, non? Mais, non, mercredi de cendre. Vous vous souvenez que la lecture du mercredi de cendre, tous les ans sont les mêmes. Et cette année, c'est très intéressant, hein, parce que cette année, le mercredi de cendre, c'est la veillée des amoureux. Ah oui, c'est la même heure. Là où vont faire les amoureux Saint-Valentin, boum, mercredi de cendre. Non? Donc, les fiancés, d'abord, on lui met un peu de cendre dans la tête et après, ils vont lui donner des roses. Non? C'est vrai, cette année c'est comme ça. Hein? Mais c'est très intéressant, parce que le mercredi de cendre, dans la première lecture, dans l'évangile, on va parler toujours, si tu fais les aumônes, et tu les fais devant tout le monde pour qu'on te voie, etc., le public, hein, tu as déjà eu ta récompense. Après, si tu fais la prière et tu te mets devant tout le monde, et, sauf la louange il faut la faire devant tout le monde, il ne faut pas se cacher derrière les piliers, non ? Mais, si tu vas dans la prière et tu te mets devant tout le monde en disant « je prie comme un voilà », non ? Pas comme celui-là qui est dans un coin, il ne fait rien, moi je suis comme il faut, non ? Malheur à toi, tu as déjà ta récompense, dit Jésus. Et après, quand tu fais les jeûnes, hein, tu fais les jeûnes, hier, personne n'a fait les jeûnes. Alors, quand tu fais les jeûnes, non, c'est très intéressant ça, hein, il faut regarder tout, quoi. Alors, quand tu fais les jeûnes, non, et c'est très intéressant pour la figure, hein, tu es plus, hein, voilà. Mais quand tu fais les jeûnes, il y a des façons de faire tellement différentes. Parce que tu fais une mine démacrée comme ça, non, avec la cendre, tu mets la cendre déjà partout, non, voilà. Quand tu fais les jeûnes, parfume-toi, sinon tu as déjà ta récompense. Alors, normalement, on tire la leçon, une leçon fausse, on tire la leçon que Jésus, il est jaloux d'être récompensé ailleurs. Alors, il se fâche, non ? On tire ces leçons-là, c'est une folie, hein, c'est faux complètement. C'est pas que Jésus dit, bon, comme il t'a récompensé déjà les autres, moi je me fâche, je ne te récompense pas. Ne me dites pas que ça c'est l'amour de Dieu. Hein. Donc, imagine que tu fais une bonne œuvre, non ? Et alors, tout le monde t'applaudit. Alors, le Seigneur se fâche et dit, maintenant, je ne t'applaudis pas. Si on pensait ça comme les hommes, on dirait vraiment, ce n'est pas trop amour, ça. Hein? Au lieu de se réjouir que tout le monde est content, non, il se fâche, il ne veut pas nous récompenser. Et ça, c'est la surabondance de l'amour, va voir. Ce n'est pas du tout ça, c'est une projection que nous faisons sur le Seigneur. C'est une projection. Le Seigneur veut guérir l'esprit de Marthe que nous traverse tous. Et il dit, si tu fais ça pour ce public, tu ne vas pas découvrir la merveille de récompense avec laquelle je t'aime. Il nous aime toujours, mais on ne découvre pas. Il nous aime toujours. Le Seigneur n'est pas jaloux que les autres nous récompensent, il est heureux. Il saute de joie que tout le monde récompense. C'est mon cœur qui est tellement attentif à regarder dans les coins de l'œil, non ? Simon fait les applaudissements, non ? Et alors, du coup, personne perçoit que nous sommes la prunelle des yeux de notre Dieu. Et quand on ne perçoit pas, on se fâche continuellement. Ça ne te fait rien que ma sœur. On n'est pas payé. Le Seigneur veut que les carêmes soient des hommes et des femmes bien payés. Ce n'est pas se faire une mine étroite comme ça. Je crois que c'est très content. Je suis très content que cette année coïncide avec les jours des amoureux. Hein? Parce que c'est pour être notre amoureux, pour découvrir que nous faisons sa joie, pour découvrir que nous sommes son plaisir. Et alors, quand nous commençons à être son plaisir, on commence à goûter la joie de la réciprocité. Ça s'appelle offrande. Et ça s'appelle sortir de nous-mêmes pour commencer à découvrir que notre vie est lui fait du bien à Dieu. Ça apparaît le monial en lieu privilégié. Ce que je vous ai dit à midi, vous voyez, non ? Que comme je savais que je ne pouvais pas trop profiter ce soir, avec la garde d'honneur, j'ai mis la deuxième point de ma méditation de ce soir. C'est ça, hein? C'est qu'effectivement, Jésus est assoiffé de quelques minutes que je lui donne. Il les attend. Et si vous savez quelle est la beauté de ça, que quand je découvre que le Seigneur est assoiffé des 60 minutes que je lui offre à lui, je trouve la joie de lui offrir la journée. Parce que tu dis, avec la joie que j'ai dans cette heure, non? Comment je vais me priver de ça les heures qui suivent? C'est vrai, hein? Je ne vais pas me priver de ça, de faire la joie de Jésus les heures qui suivent. Parce qu'il est content aussi, une demi-heure plus tard. Hein? Quel est le résultat de ça? La merveille d'un cœur qui vit devant le cœur du Seigneur. Autrement dit, ce que saint Paul a découvert dans le chemin de Damas, que c'est très eucharistique, et que nous avons le droit de goûter, pas d'une façon clignotante, maintenant oui, maintenant non, mais en permanence. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, je vais dire quelques points de cette deuxième étape qui commence, comme je vous ai dit, dans le chapitre 3, d'abord les versets 1 à 3. Qu'y a-t-il dans ces versets? Vous l'avez devant vos yeux, non? Je l'imagine. Hein? Vous regardez votre Bible, non? Virtuelle. Et c'est que vous la connaissez davantage. Vous l'avez déjà dans la tête, hein, parce que vous savez par cœur qu'est-ce qu'il y a en 1 Jean 3, 1 à 3. Cette technique, je ne l'utilisais jamais depuis que j'ai mon évêque, non, qui l'utilise tout le temps, j'ai appris. Non. Comment vous ne savez pas ça? Aïe, 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 aïe. Non. Regardez quel amour a eu le Père de nous appeler ses enfants. Et vraiment, nous les sommes. Autrement dit, que ce n'est pas un rêve et que c'est vrai. Il continue. Il ne s'est pas encore manifesté pleinement ce que nous sommes. Nous savons que quand il se manifestera, quand est-ce quand il se manifestera? Quand on lit un peu de loin, c'est dans le ciel, si on va au ciel, on verra bien si ça se manifeste, etc. Non, non, si ça c'est à chaque Eucharistie. Quand il se manifestera, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Point. Quiconque a cette espérance en lui devient pur, comme lui-même est pur. Parce que l'unique chose de guérir les violences du cœur, c'est aspirer à ce que Jésus veut nous donner. Les violences du cœur viennent toutes de vouloir rassasier nos faims avec des choses qui ne nous rassasient pas. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Isaïe dans le chapitre 55 versets 1 et 2. Ah oui. Pourquoi dépenser votre argent en ce qui ne vous rassasie pas? Zélie avait raison, hein. Mangez Jésus à mon cœur. Parce qu'en réalité, me rassasier de Jésus paye très bien. J'insiste, c'est ma monomanie. Mais de plus en plus, dans mes homélies à Saint-Agricole, si vous voulez entendre ça, vous l'entendrez tous les dimanches d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, être la joie de notre Dieu est à notre portée, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que le Seigneur nous regarde, comme l'épouse du cantique. J'étais très content quand le père Rodolphe Carr, c'est Rodolphe, non? Jean-Rodolphe Carr, il nous disait de lecture des cantiques dans notre pèlerinage à Romé. Mais ce n'est pas banal, ce n'est pas romantique. Quel cœur n'a pas une soif incroyable d'être aimé? Et combien nous cherchons partout que quelqu'un, il m'a regardé, oh, wow, mais ce n'est pas ton mari, non, mais c'est tellement tendre, oh. Il me regarde plus. Il crie pour 15 jours. Non, voilà. Non, mais soyons sincères, quoi. Non? Mais c'est très important parce que ce cœur n'est pas mal fait du tout. Il est très bien fait, mais Dieu qui nous a très bien fait et nous a fait pour lui, et notre cœur reste inquiet jusqu'à ce qu'il repose vraiment en lui. C'est pour ça qu'on perd du temps à parler. Parfois, le Seigneur me tire des oreilles après avoir parlé. Parce que parfois, j'ai l'impression de vous entretenir beaucoup trop. Quand ce qu'il faudrait, c'est que Jésus vous dise ces choses. Parce que les écoutez de moi, écoutez, vous voyez, empêlés, la langue de travers, les dents sont en plastique, non, les oreilles sont aussi en plastique. C'est vrai, hein, tout ça, hein, les oreilles sont en plastique. C'est pour ça que je ne pouvais pas me marier, non, pas possible. Non, non, mais pour moi, c'est très important. Le Seigneur nous a fait pour lui. Et à fil et à mesure qu'on reconnaît cette source d'amour dans notre cœur, on avance. I on comença el mystère que Sant Paul plus tard va traduir com el mystère de l'offrande dont je vous parlais déjà hier. Offrez vos corps com une victime, et ce matin je le dis encore, no? Vivante, sainte, agréable à lui. De telle façon que vous arrivez à connaître ce qui est bon, première étape, ce qui lui est agréable, deuxième étape, ce qui est parfait. La perfection de l'amour passe par lui être agréable. Mais nous le sommes déjà. Le Seigneur voit dans nos offrandes, ça on l'a dit dans la messe, aujourd'hui non, parce qu'on a fait la deuxième prière eucharistique. Mais mon Seigneur toujours a tendance à prendre la troisième, non? Et dans la troisième, après avoir fait la consécration, on dit, Père, reconnais dans l'offrande de l'Église, l'offrande de ton propre Fils. Autrement dit, le Père voit dans nos offrandes l'offrande de son Fils. Mais nous, non. Nous, non. Et quand on ne les voit pas, on ne profite pas de la merveille de ce qui se passe. Et pourtant, il voit en nous. L'offrande, ça c'est Sant Thérèse de l'Enfant Jésus, en parlait beaucoup de ça, no? Quand elle disait qu'elle avait l'ardiesse de s'appliquer à elle-même la mérite de tous les saints, n'est pas autre chose que ça, hein? Avoir l'humilité de croire que le Seigneur voit en moi tous les mérites de tous les saints. Il a des culots. Mais ces culots-là, c'est essentiel pour les chrétiennes. Non, 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 ça c'est trop. Je suis plus humble. Tu es humble? C'est l'humilité. Non? Être chrétien, c'est être humble, 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 se concentrer. Non? Je suis convaincu qu'il faut être humble. Hein? Maintenant, en plus, mon Seigneur a parlé ce matin de l'humilité, donc il faut être humble, ok? Mais attention, qu'est-ce que c'est qu'être humble? Vous avez lu le Magnificat, on le chante dans tous les vêpres. Vous l'avez chanté tout à l'heure, non? Et qu'est-ce que vous avez chanté? Vous vous souvenez? Vous avez chanté, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez chanté? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Donc Marie était l'humilité la plus grande qui existe sur la terre. Oui, oui. Alors regardez la phrase suivante. Vous l'avez chantée? D'affilée immédiatement. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Marie, un peu plus humble. Veux-tu dire quelques générations? Non, toutes. Mais quelle humilité! C'est une humilité bizarre, non? C'est l'humilité de sa servante. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Allez. Cette humilité-là, on a besoin de l'accueillir. Parce que ce n'est pas « Non, je suis en rien du tout. Non, moi, non. Qu'on m'a dit qu'il faut évangéliser. Non, 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 moi, je suis fait simplement pour balayer. Mais si tu vas balayer avec l'esprit de Marthe, ne balaye plus. Les églises sont pleines de gens qui balayent avec l'esprit de Marthe. Ne riez pas, surtout pas. Non? Mais combien de ça il y en a, mais je vous assure, non? Oh, le curé ne m'a pas regardé, donc je ne fais plus. Il a fait un cadeau à Madame X, non? Et elle a oublié Madame Y, que c'est moi. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Avec l'esprit de Marthe, le cœur ne se dilate jamais. Ne se dilate pas. Il faut venir au cœur de Jésus pour qu'il me dise la valeur de ma vie pour lui. Et alors là, s'appliquer les mérites de Christ, je n'ai pas perdu la ficelle, hein? S'appliquer les mérites de Christ, avoir le culot, excusez-moi l'expression, comme c'est enregistré, ça reste pour l'éternité, non? Avoir le culot de croire que Dieu voit en moi les mérites de tous les saints, c'est du culot, quoi. Mais c'est ça ce que dit Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelle est la conséquence de ça? Que je trouve la joie de lui offrir à Jésus le mieux de moi-même. La joie. La joie. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais... Il reste 8 minutes. Donc, demain, heureusement qu'il y a encore quelques temps demain matin, non? Mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à fur et à mesure qu'on entre dans ces registres, on découvre tous les points dont Saint Paul nous a parlé hier, aujourd'hui, beaucoup plus approfondis. Premier point, du verset 4, verset 10, il nous dit Saint Paul, que Saint Jean, merci beaucoup. Est-ce que je suis tellement fan de Saint Paul, non? Que de temps en temps, je raconte tout à lui, le pauvre. Non? Alors, celui qui commet les péchés transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Jésus enlève les péchés. Celui qui est avec lui ne pêche plus. Hier, il nous a dit une chose très bizarre. Hier, il nous a dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un mensongeur. Aujourd'hui, il nous dit, il va parler encore du péché, c'est le premier point, hein, mais c'est, la séquence est merveilleuse. Je sais que dans une retraite comme ça, on ne peut pas tout déployer, je le sais. Mais je vais vous introduire dans l'école parce que c'est vraiment merveilleux. Ici, il dit que celui qui connaît Jésus n'a pas de péché. Celui qui commet le péché est du diable. Et depuis le commencement, le diable est pécheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Une chose qui est très lumineuse pour notre vie. Moi, quand je me suis converti, chaque jour on s'est converti, hein, mais bon... Quand tu vivais une vie un petit peu à côté de la plaque, c'est évident, non? Et tu changes une vie un petit peu moins évident, non? Alors, il y a quelque chose d'impressionnant qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'effectivement, le Seigneur m'a pardonné tout pour renouveler complètement ma vie. Et je crie à ça, comme nous. Hein? Ça, c'est commun à tous, non? Mais après, il m'est arrivé une chose très bizarre. Quelques années plus tard, j'ai prêché une retraite à Étampes, au sud de Paris. Ils étaient venus en groupe de jeunes de toute l'Europe. Et alors là, une retraite, c'est toujours un risque parce que tu ne sais pas si ça va évoluer ou non. Tu as les personnes 5 jours et il y a des fois que quand tu transmets la parole, ça chauffe le cœur. Mais il y a des fois quand tu prêches la parole, ça chauffe les chaises. C'est pas la même chose. Et alors, je voyais que le premier jour, ça chauffait la chaise. Deuxième jour, ça chauffait la chaise encore. Troisième, c'était 5 jours. Troisième jour, ça chauffait la chaise. Et j'ai transpiré. Comment ces groupes de jeunes qui sont venus de différents pays d'Europe, et là, 4 jours déjà, et ça, c'est pas possible. Et certains disaient, non, ma maman m'appelle, il faut que j'y parte. Et alors, j'ai passé une nuit que j'ai transpiré devant le Seigneur. La prière, parfois, n'est pas simplement comme une espèce de comme Saint-Dominique, non? Que tu pries les chapelets à flotter et tout ça, non? À moi, m'arrive pas toujours ça. Hein? jamais quoi, non? Mais non, mais il y a quelque chose d'impressionnant parce que effectivement, ça chauffait avec Jésus. Et Jésus me disait, parce que c'est pas possible que tous ces hommes qui sont venus, tous ces hommes et femmes qui sont venus pour la retraite partent pire qu'ils sont venus. Seigneur, je vais me condamner parce que c'est pas possible, non? Et alors, et quand je parlais avec le Seigneur, il me disait, crois-tu? Ça, c'est le premier point dans cette deuxième étape. Crois-tu que pas les gros péchés que tu as fait quand tu étais jeune, non, non, les péchés qu'on appelle véniels, non? Par exemple, quand ils sont le réveil le matin pour prier, et tu caresses un peu le réveil un peu trop fort, non? Et il entre dans le silence, le réveil, non? Et toi aussi, non? Crois-tu que quand, voilà, on te demande une faveur et quand tu es pressé parce que tu dois faire, oui, je ferai les faveurs et après, tu ne les fais pas, non? Crois-tu que quand les choses normales, crois-tu que tu me tues, que tu me crucifies? Pas que tu me... Crois-tu que tu me crucifies? Non. Pas possible. Les gros péchés du passé, oui. Mais les petites conneries, excusez-moi, quotidiennes, etc., non, je ne te crucifie pas. Non, c'est trop fort ça. Non. 11h du soir, non. Minuit, non. 1h du matin, non. 2h du matin, non. 3h, 4h du matin, oui. Je vous dis une chose que c'est impressionnante. Quand Saint Jean parle du péché dans cette deuxième lettre, il n'est pas, de même qu'hier, je vous disais que c'était qu'au-dessous de la boue, il y a le pire, vous vous souvenez? Aujourd'hui, va plus loin. Si tu reconnais que chaque fois que tu n'es pas à la hauteur de ta vocation, de papa de famille, de maman de famille, de personnes engagées d'une façon ou d'une autre dans la société, de ces petites choses, crois-tu que tu me crucifies? Et c'est arrivé une chose vraiment étonnante dans mon cœur, parce que j'ai dit à Jésus oui. Et immédiatement, presque 5 minutes plus tard, j'ai commencé à percevoir une chose incroyable, que c'est au cœur de la deuxième étape. Et c'est Jésus qui disait, tu sais la valeur qui a chacun de tes actes pour moi? Parce que tes actes ne sont pas des machins que tu vis, c'est moi qui suis impliqué avec toi en permanence. Je suis uni à toi pour que ta vie ait la saveur de la mienne. Je suis uni à toi. Mais ça, ce n'est pas des phrases que je vous dis comme ça, méditation un peu marginale, non, non. Ça, c'est que dans les Saints Médicins, dans l'office de lecture, nous lisons. Nous sommes devenus, toi et moi, disait Jésus à Adam, dans chacun de nous, une seule et indivisible personne. Nous sommes une seule et indivisible personne avec lui. Crois-tu que chaque fois que ta vie n'est pas à la saveur de la mienne, je donne la vie pour toi, pour que tu puisses reprendre et aller plus loin, fondé sur mon amour? Autrement dit, il n'y a aucune, disons, séparation entre Jésus et mes actes. Et lui est toujours amour. Et quand je reconnais ça, ma vie prend une marche de plus dans la communion avec lui. Tellement belle que quand, je vous disais ce midi, no, que Jésus, effectivement, il a soif de moi, il a soif de mes petits actes que j'ai faits pour lui et que je lui offre, ça paye, ça paye. Ça comble, ça te donne envie d'aller plus loin, ça te donne une joie dans le cœur réel. La croix existe, mais la croix commence à avoir la saveur d'une communion d'amis. Parce que le christianisme ne nous épargne pas les problèmes. mais il nous donne une façon de les vivre tellement belle qui fait que ce que nous vivons avec lui, à la saveur de l'offrande de Jésus, réellement, réellement. Et alors, pour demain, le reste. Parce que c'est 7h-5, non? Et la soupe, il vient de la chauffer, non? Et il ne faut pas qu'il la refroidisse. Non, mais attention, je voudrais dire, prenons du temps. Si c'est à l'espace Saint-Jean, l'espace Saint-Jean, si c'est à la chapelle de la Visitation, prenons du temps. Parce qu'on peut entendre des discours sympathiques comme ça pendant toute notre vie et pas goûter rien du tout de Jésus. Et les vierges folles et les autres, il semble qu'elles étaient très égoïstes. Vous vous souvenez de la parabole des vierges, non? Non, 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 c'est notre huile à nous, non, non. Et Jésus fait un exemple de cette parabole qui semble que c'est la promotion de l'égoïsme, non? Oui, oui. Nous sommes parfaits, nous avons notre huile et vous vous débrouillez comme vous voulez. Voilà, c'est l'exemple que Jésus nous donne, non? Non, mais ce n'est pas une méchanceté de Jésus, non? C'est que ces expériences d'amour de Jésus, l'autre ne peut pas les faire pour moi. Et la dernière blague, c'est fini. J'ai demandé à un ami de m'aider à draguer la fille que j'aimais beaucoup et que j'osais pas lui dire. Et quelques mois plus tard, c'est lui qui sortait avec elle.